Vous écoutez France Culture.
À la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Et aujourd'hui, à la suite dans les idées, je vous propose de jouer au Monopoly, mais un Monopoly d'un genre nouveau. Thierry Pech, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la rédaction du mensuel Alternatives économiques et vous publiez ces jours-ci aux éditions du Seuil, Le temps des riches, anatomie d'une sécession. Et ce livre commence par une partie de Monopoly, d'où ce clin d'œil en ouverture. J'ai appris en vous lisant que le Monopoly n'était plus du tout ce à quoi il ressemblait autrefois, ce jeu auquel des générations et des générations ont joué. Formidable métaphore du capitalisme classique du 20e siècle. Il s'est adapté, lui aussi, et en quelque sorte globalisé, financiarisé, à tel point qu'aujourd'hui, ce jeu de société, on reviendra sur l'expression, du Monopoly, prend en compte, en charge, un certain nombre des transformations donc du monde économique et social dans lequel nous vivons. Mais surtout, il propose à ses joueurs de vivre une expérience singulière, réservée ordinairement à bien peu de gens qui peuplent cette planète, à savoir les riches, mais pas... disons plutôt les super-riches, probablement, Thierry Pech.
Oui, les ultra-riches. Alors bon, c'est une des versions possibles du Monopoly. Il y en a plusieurs, mais celles qui sont en circulation aujourd'hui, les versions remaniées, n'ont pas grand-chose à voir avec le Monopoly de notre enfance. Et c'est là une métaphore, je crois, presque parfaite de ce qu'on a vécu dans le monde réel en même temps. Vous vous souvenez que dans notre enfance, le Monopoly nous mettait dans la situation d'un entrepreneur de l'immobilier local qui avait réussi à Paris en l'occurrence, mais à qui finalement il arrivait des malheurs et des bonheurs relativement ordinaires. On avait des frais d'hospitalisation, vous fêtez votre anniversaire, il vous arrivait des choses finalement assez banales. Tout ça s'est terminé. Dans le nouveau Monopoly, on n'achète plus des rues de Paris, on achète des villes du monde entier, Montréal, Los Angeles, Sydney, etc. On ne joue plus avec des unités de 10, de 100, etc., mais avec des unités de compte qui s'élèvent en milliers et en millions.
On n'achète plus les gares, mais les compagnies aériennes.
On achète des compagnies aériennes, etc. On touche les dividendes. Et tout ce qui sentait la vie ordinaire, avec ses bonheurs et ses malheurs, a disparu des cartes chance et caisses de communauté. Maintenant, il vous arrive des malheurs qui sont liés à votre appétit excessif. Par exemple, vous payez cher une fête privée organisée sur la plage de Bondi en Australie pour vos amis.
En Australie, il faut préciser.
Oui, bien sûr, en Australie, absolument, pas dans le 93. Bon, bref, le Monopoly raconte finalement assez bien les transformations radicales de l'imaginaire, mais aussi de la réalité des ultra-riches aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai voulu expliquer. Donc, au-delà de la mise en scène ludique, parce que ça reste un jeu, il ne s'agit pas d'accabler le Monopoly, qui reste un jeu assez drôle, finalement. Au-delà de ça, il y a une réalité qui est beaucoup moins drôle, qui est que depuis 20 ans, à peu près, les rémunérations des très riches, c'est-à-dire des 2 ou 3% du haut de la distribution en France ont explosé. Rémunération du travail, mais aussi rémunération du patrimoine, revenus exceptionnels liés aux plus-values, etc. Et ce que j'ai voulu essayer de mesurer, c'est les origines de ce mouvement.
Comment en est-on arrivé là
à la
fois ? Est-ce que c'est une fatalité ? C'est toutes les questions qu'on va se poser. Mais commençons d'abord peut-être par ce qui vous occupe la première partie du livre, c'est-à-dire un diagnostic, parce qu'il est important de le poser dans la mesure où il est toujours difficile d'appréhender où qu'on se situe dans la société la stratification sociale du monde dans lequel on vit. Tout est relatif. Les niveaux de revenus, évidemment, n'ont pas la même signification selon que l'on gagne le SMIC ou selon qu'on soit un cadre supérieur ou un ultra-riche. Donc, et aussi les instruments manquent, les instruments de toute nature. Vous le relevez au début de votre livre, Thierry Pêche, la statistique nationale, l'INSEE, a longtemps détourné le regard, certes, de populations qui ne sont pas très nombreuses, mais qui néanmoins sont significatives. Et par ailleurs, les travaux de recherche sur les riches ne courent pas non plus les rues. On ne courait pas les rues, peut-être, jusqu'à ces dernières années.
Oui, alors effectivement, les chercheurs ont fait des travaux. Les chercheurs, c'est Camille Landais, c'est Thomas Piketty, ce sont des gens qui maintenant sont assez visible et connu, et c'est un bien. Les chercheurs se sont intéressés à cet îlot démographique des ultra-riches pour essayer de comprendre où se jouait le creusement des inégalités.
Des sociologues comme les Pinson-Charlot d'un autre point de vue,
effectivement, il ne faut pas les oublier. Il y a aussi des sociologues qui se sont intéressés à cette question. Donc on a maintenant une masse de documents et d'informations précises sur le sujet. Et c'est vrai que pendant longtemps, ça nous a manqué. Pendant longtemps, finalement, s'intéresser à ce qui se passait en deçà des 10% les plus riches, c'est-à-dire dans le pourcent le plus riche ou dans le 0,01% le plus riche, on considérait que finalement ce n'était pas essentiel et pas très intéressant. Or, c'est en découvrant ce qui se passe là qu'on comprend ce qui est arrivé à nos sociétés et à notre économie. Donc voilà, c'est vrai que maintenant, on a tous les outils en main. L'INSEE a fini lui-même par publier des chiffres qui datent d'il y a 2 ans à peu près sur ces derniers quantiles de la distribution.
Je voudrais juste qu'on donne des chiffres. Alors, il s'agit de revenus. Évidemment, on ne peut pas qu'avec les revenus, parce qu'il y a les patrimoines, il y a des revenus exceptionnels, etc. Mais si on s'en tient aux revenus, je voudrais juste citer ce chiffre que les auditeurs puissent avoir en tête, des ordres de grandeur, parce que c'est toujours important d'avoir ces dimensions en tête. 5% des Français les plus... pour entrer dans les 5% des Français les plus fortunés, écrivez-vous, il faut percevoir une rémunération mensuelle supérieure à 5 400 €. Quand on dit 5 400 euros, ce sont des revenus nets imposables.
C'est ça.
Donc 5 400 euros pour être parmi les 5% des Français les plus fortunés par mois. Et il faut franchir les 10 000 euros pour être dans le club des 1% les plus riches. Ça veut dire 1% les plus riches, ça veut dire 580 000 personnes en France, dites-vous. Mais ce qui vous occupe, et plus encore après, ce sont non pas les 5%, non pas les 1%, mais le 0,01%.
5 800 personnes qui, effectivement, gagnent en moyenne, en revenus nets imposables, plus de 89 000 euros par mois, soit plus d'1 million d'euros par an, pour faire court. Alors, c'est important, effectivement, de donner ces seuils, parce que souvent, on juge la richesse à sa fenêtre. On la compare à son propre revenu. Quand dans la population, vous avez 90% des gens qui gagnent moins de 3 000 euros en revenu net imposable.
Et que le revenu médian
se 1500. Situe autour de 1 600 euros, un petit peu en dessous, vous avez fatalement tendance à penser que des gens qui gagnent 5 000 euros par mois sont riches.
Bon. Juste pour dire médian, ça veut dire qu'il y a autant de gens d'un côté que de l'autre.
Voilà, c'est l'équateur statistique de la population, le revenu médian. Bon. Donc ça, c'est la relativité par rapport aux gains des Français moyens, si vous voulez. Mais ce qu'on observe, c'est que cette relativité se brise, l'échelle se casse autour des 3 ou 2 derniers pourcents. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le multiplicateur par rapport au salaire médian devient un peu délirant. C'est-à-dire qu'il y a des écarts fantastiques dans les 3 derniers pourcents de la distribution, et notamment dans le dernier pourcent, qui font que vous avez tout en haut de la distribution des gens qui gagnent 50, 60, 100 SMIC. Donc là, vous n'avez plus, si vous voulez, de capacité de vous comparer aux autres, puisque finalement, la relativité, les échelles régulières de la relativité se sont brisées.
Or, dans une démocratie... Un comme Thierry Henry qui gagne, par exemple, en une année, un siècle de SMIC.
Par exemple, oui. Par exemple. Donc voilà. Alors beaucoup, évidemment, réfutent ces comparaisons et disent, notamment les économistes qui veulent justifier l'augmentation des très hauts revenus, disent ça n'a pas de sens de mesurer en nombre de SMIC la valeur d'un revenu. Moi, je pense que dans une démocratie, au contraire, il y a un droit impérieux à se comparer les uns aux autres. C'est-à-dire que faire société, c'est faire commune mesure. Et ce qu'on a vu se briser ces dernières années, c'est précisément cette commune mesure. Donc je pense qu'au contraire, il est très utile de ramener ses revenus à un nombre de SMIC ou à un nombre de revenus médians, comme on veut. On prend le repère qu'on veut, mais c'est bien et c'est utile. En tout cas, c'est l'essence de la démocratie, de faire en sorte que les gens puissent se comparer entre eux.
D'où l'idée de rappeler que ce Monopoly est toujours un jeu de société et que c'est bien de faire société qu'il s'agit, comme vous le rappeliez, Thierry Pêche, et ça permet aussi de comprendre d'où viennent ces écarts. Alors d'abord, il faut s'intéresser, peut-être prendre au sérieux les justifications, les discours de légitimation qu'on entend dans des versions plus ou moins sophistiquées, mais en général, les arguments avancés pour justifier de tels revenus sont assez peu nombreux, toujours les mêmes. On les entend beaucoup à propos de choses qui ont l'air simples, comme le marché des joueurs de football professionnel ou le succès des artistes, mais on l'entend aussi pour les grands patrons, par exemple. Vous n'êtes pas vraiment convaincu par ces arguments qui permettraient de comprendre pourquoi des gens seraient payés à ce point plus que d'autres.
Bah écoutez, il y a deux types d'arguments qui ont été avancés. Alors après, autour de ces deux arguments, on a construit des cathédrales théoriques plus ou moins chancelantes, en général plus chancelantes que moins. Il y a l'argument du trickle-down, c'est-à-dire la théorie du ruissellement. C'est l'idée que plus une société compte de riches, meilleur c'est pour elle, parce que la richesse de ces gens va dégouliner le long des parois du social
et
se vaporiser en fines gouttelettes sur à peu près tous les destins sociaux et donc profiter à tout le monde. Et donc il faudrait remercier les riches d'exister d'une certaine manière.
Ça ne résiste pas vraiment à l'examen.
Alors effectivement, quand on regarde l'expérience, que ce soit celle des Trente Glorieuses où finalement les riches étaient beaucoup moins riches et moins dynamiques dans leur enrichissement qu'aujourd'hui, on a affaire à une période de forte croissance, de fort développement de la consommation, de très faible chômage, alors même que la société française de ces années-là n'a pas le culte et le soin des riches. Bon. Inversement, depuis 20 ans, les riches en France se sont énormément enrichis. Je rappellerai que pour le 0,01%, l'augmentation de revenus a été de 40% quand elle a été de 9% uniquement pour les 90% du bas de la population. Donc, ils se sont énormément enrichis. On a fait tout ce qu'il fallait faire pour leur favoriser, je dirais, ce développement, on a baissé leurs impôts, on a modulé les charges, etc., etc. Et on a une croissance faible et un chômage élevé structurellement depuis 30 ans. Donc l'expérience ne valide pas ce point de vue. Ensuite, il y a un deuxième argument, donc ça c'était le trickle-down. Le deuxième argument, c'est de dire ce sont des êtres d'exception, finalement. Ce sont des gens très talentueux, ce sont des gens qui ont été souvent des créateurs d'entreprises géniaux.
Irremplaçables.
Irremplaçables. Et d'une certaine manière, il faut accepter l'idée que leur fortune est la traduction de leur autonomie. Or, ça, c'est faux. C'est une fiction. C'est une histoire pour enfants qu'on nous a racontée depuis 20 ans et qui ne tient pas la route. J'ai consacré de nombreuses pages à démontrer pourquoi il n'y avait pas d'autonomie de la fortune des personnes physiques. Même chez les footballeurs très bien payés sont effectivement des gens très talentueux, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais c'est pas leur talent qui est la mesure de leur rémunération. C'est l'organisation du business et du spectacle autour d'eux. Vous pouvez trouver des sportifs très talentueux en bobsleigh qui ne gagnent pas du tout les mêmes rémunérations. C'est pas le talent qui fait la différence, c'est l'organisation industrielle qui est autour. Et donc c'est la société qui est autour. C'est ça que j'ai voulu montrer. Donc la fiction des hommes d'exception ne tient pas la route finalement quand on examine les choses de près. En réalité, les personnes les plus riches sont souvent, pour celles qui ne sont pas simplement rentières, et il y en a aussi, sont souvent des gens qui sont simplement bien positionnés sous le robinet, au bon endroit, si vous voulez.
Vous voulez dire que ce sont des gens qui bénéficient d'un certain mode d'organisation sociale qui va considérer certaines choses plus importantes que d'autres et qui va se structurer de telle façon à accorder à certains une place privilégiée de laquelle ils vont pouvoir bénéficier de rémunération. Prenons l'exemple d'un footballeur, il va évidemment toucher un salaire de son club, mais surtout ce qui fera la différence, ce qui fera qu'on arrive à ce siècle de SMIC dont nous parlions, c'est les contrats publicitaires, ce sont des choses qui sont beaucoup plus dérivées du talent premier et non pas directement liées, je dirais, à la capacité de ce joueur à marquer des buts, par exemple.
Alors oui, mais en même temps, on met beaucoup l'accent sur les footballeurs. Alors, je leur ai consacré un chapitre parce qu'effectivement, ils font partie du paysage, mais les ultra-riches qui se sont le plus développés ces dernières années, c'est pas les footballeurs, c'est pas les comédiens, c'est pas les créateurs d'entreprises.
Même s'ils figurent quand même dans cette catégorie.
Ils figurent, bien sûr. Non, mais il y a tous ces personnages dans cette catégorie, mais c'est les cadres dirigeants et des traders de l'industrie financière qui ont pris le pouvoir chez les ultra-riches.
Alors, ce n'est pas les mêmes, d'ailleurs, vous dites cadres dirigeants, ce ne sont pas les mêmes patrons qu'autrefois, qu'il y a 30 ou 40 ans. Il y a 30 ou 40 ans, si on avait mené ce type d'enquête, on se serait aperçu que les plus riches d'entre eux, qui n'étaient pas aussi riches qu'aujourd'hui, c'était des gens qui étaient issus de l'industrie, principalement.
Voilà. Alors ça, ce sont les travaux d'Olivier Gauthier qui permettent de le montrer, que je n'ai fait que reprendre à mon compte. Il y a 20 ou 30 ans, la photographie des ultra-riches mettait en avant les grands capitaines d'industrie, notamment. Et les secteurs de l'industrie financière ou encore du conseil aux entreprises, avocats d'affaires, etc., consultants, étaient des secteurs très minoritaires. Aujourd'hui, ils ont énormément progressé, on peut dire qu'ils ont pris le pouvoir. Je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais aujourd'hui, dans le 0,01% des plus riches, vous comptez un quart de cadres dirigeants de l'industrie financière et de traders, et un autre quart de conseil aux entreprises. Donc on n'a plus affaire à la même population. Il ne faut pas se tromper, les petits cousins de feu Steve Jobs sont aujourd'hui moins nombreux chez les ultra-riches que les petits cousins de Jérôme Kerviel, si vous voulez, et des cadres dirigeants de la banque en particulier.
Alors Jérôme Kerviel, c'est une figure intéressante, enfin prenons ce nom-là, mais pour désigner ces professionnels de la finance qui sont rémunérés de manière particulière. Là encore, c'est Olivier Gauthier qui permet de penser ça grâce à son travail sur ce qu'il a appelé les working rich, donc clin d'œil au working poor, hein, cette catégorie qu'on connaît. Working rich, ce sont des riches, mais qui ne sont pas des rentiers. On parlera peut-être des rentiers tout à l'heure, parce qu'il y a un retour des rentiers aussi, dites-vous. Mais ces working rich sont des riches qui travaillent, donc, comme l'expression le dit, mais qui ont cette particularité, ce que montre très bien Gauthier, finalement, de faire un petit peu comme les footballeurs avec le système footballistique autour d'eux, c'est-à-dire d'être en mesure de s'accaparer du capital social qui ne leur appartient pas pour se faire rémunérer en propre. C'est-à-dire qu'ils ont des clients dans la banque dans laquelle ils travaillent, et quand ils changent de banque, ils emmènent avec eux leur portefeuille de clients, estimant que ce portefeuille leur appartient à eux. Et donc, il y a un changement de la relation, du rapport de force entre capital et travail, au profit des rémunérations de type salarial. Et le capitalisme se trouve corrodé, en quelque sorte, même par ce mode de rémunération. C'est ce que montrait Gauthier dans son travail sur les traders, ce qui était assez passionnant. Mais finalement, ce qu'il montre là pour les traders, ça a l'air de valoir, nous dites-vous, Thierry Pech, pour d'autres domaines. C'est-à-dire que ces riches profitent de leur capacité à bénéficier d'un capital social qu'ils s'accaparent, d'une structure sociale qui va être en mesure de les rémunérer, au fond.
Alors, il y a d'un côté, je dirais, un capitalisme patrimonial, comme on a dit, qui s'est mis en place et qui permet à ces populations de capter de très grosses quantités d'argent sur le flux d'activité des entreprises dans lesquelles ils travaillent. C'est vrai dans la banque, mais c'est vrai aussi dans d'autres entreprises.
Stock-options, etc.
Stock-options, bonus, etc. Et puis, il y a ensuite une explication plus spécifique de la situation des traders, qui est la théorie du hold-up qu'a développé Gauthier. Bon, mais je crois qu'il faut parler des deux, parce que sinon, on ne se rend pas compte. Et on passe sous silence un trade-off avec les traders, en particulier de la part d'industrie financière, qu'il faut développer. Dans aucune autre activité économique, les chefs d'entreprise auraient permis à certains de leurs salariés de prendre autant de risques sur les avoirs de l'entreprise. Bon. Pourquoi est-ce que les banques ont laissé les traders prendre autant de risques? C'est un métier qui consiste à gérer du risque, hein, c'est évident, mais là, on leur a vraiment lâché la bride. Bon. Parce qu'il y a un trade-off, c'est-à-dire une espèce de pacte implicite. Ces entreprises financières et bancaires en particulier sont souvent trop grosses pour tomber, too big to fail. Elles savent que s'il leur arrive malheur, en dernier ressort, les États voleront à leur secours. Et finalement, la prise de risque excessive sur les marchés financiers les plus sophistiqués n'est pas vraiment un problème. C'est pile je gagne, face tu perds. C'est ça, le trade-off. Donc, c'est aussi pour ça que de telles sommes d'argent ont été dégagées et ont fini dans la poche d'un certain nombre de cadres dirigeants.
L'actualité d'Exia est là pour nous le rappeler.
Oui, mais
par exemple,
pas seulement
des dernières en date.
Oui, oui. Donc il y a tout ça. Et puis, il y a les tarifs que les banques pratiquent et imposent à leurs clients. Il faudrait aller voir comment justifier ces tarifs. Ça, personne ne le fait. Et là, il y aurait une partie de la réponse. Alors, par ailleurs, il y a la théorie du hold-up, hein, et qui fonctionne, je pense, très bien, effectivement, pour les traders. Et là, c'est encore les travaux d'Olivier Gauthier qui ont permis de le montrer. C'est-à-dire que le rapport de force entre l'employé et l'employeur est en faveur de l'employé dans la situation du trader. Tout simplement parce que s'il s'en va, il s'en va avec son portefeuille de contact. Et parfois, il s'en va même avec certains de ses collaborateurs. Et il apporte son capital social à l'entreprise qu'il rejoint. Et donc, il faut tenir ces gens. Et c'est vrai que pour les tenir, eh bien, on leur offre des ponts d'or. Bon. Donc, ce rapport de force, effectivement, joue en leur faveur. Est-ce qu'on peut exporter cette théorie du hold-up à d'autres secteurs? C'est quand même plus compliqué. Ce qu'on observe ailleurs, c'est plutôt une forme de connivence sociale dans les conseils d'administration du CAC 40 en particulier, où vous avez quand même tellement d'interdépendances croisées, de gens qui siègent dans X conseils d'administration. C'est vrai qu'ils se tiennent souvent par la barbichette et que ce sont des gens qui parfois ont fait même leurs études ensemble. Il y a tout un, je dirais, il y a tout un climat et un contexte social de connivence et de complicité.
Ça peut marcher pour les avocats d'affaires aussi.
Ça peut marcher pour les avocats d'affaires, ça peut marcher pour tous les milieux sociaux qui sont très petits et qui maintiennent ensemble pendant des années les mêmes personnes. Bon, et des personnes qui ferment la porte souvent derrière elles en plus, hein, donc qui protègent leurs intérêts. Donc là, on voit à l'œuvre des logiques sociales de captation de rente et de conservation de la rente qui sont extrêmement redoutables, extrêmement efficaces.
La rente, donc, on y vient. Donc, les rentiers, le retour, ça, on savait, c'est les travaux d'un autre économiste, Thierry Philippon, qui avait une dimension...
Thomas
Philippon, qui avait une dimension capitalistique familiale en France, en particulier. Mais, alors ça, c'est peut-être une spécificité française, parce que beaucoup des traits que vous décrivez sont... on les retrouve dans nombre de pays aujourd'hui. Mais qu'en est-il de ces rentiers? Est-ce qu'il s'agit de nouvelles figures de rentiers? Est-ce qu'il s'agit de la figure classique du rentier qui remontait en puissance ces 10 ou 15, 20 dernières années, Thierry Pech?
Moi, je crois qu'on court à reculons vers le 19e siècle. Voilà. Les valeurs du bourgeois du 19e ne sont pas encore de retour, mais ça se pourrait. Ça pourrait venir. Il y a des travaux qui sont extrêmement préoccupants, qui montrent que le flux d'héritage dans le revenu national est en croissance rapide. Ce flux d'héritage, si vous voulez, c'est la somme des actifs transmis par donation ou succession une année rapportés au revenu national, c'est-à-dire au PIB moins un certain nombre de choses. Je ne m'étends pas sur l'agrégat statistique lui-même, mais enfin, c'est un indicateur qui est de bonne valeur. Thomas Piketty a montré qu'à la fin du 19e siècle, donc au moment de la société de rentiers, ou ce qu'on regarde comme la société de rentiers, ce flux d'héritage sur le revenu national était à peu près de 25%. Il n'a cessé de s'effondrer tout au long du 20e siècle, en raison des guerres qui ont détruit énormément de capital et de patrimoine, en raison aussi d'un appareil fiscal, d'un état fiscal qui a jugulé la reconstitution de grosses accumulations de patrimoine à partir des années 50 en particulier. Bon. Ce qu'on constate depuis 20 ou 30 ans, c'est que ce flux annuel d'héritage, il remonte. Il était tombé à 5% dans les années 50. Il est remonté aujourd'hui à peu près 15%. Et si on extrapole la courbe en U, on sera probablement au niveau du 19e siècle dans 20 ans. Bon. C'est extrêmement préoccupant. Pourquoi? Parce que ce mécanisme, il n'est pas lié simplement au comportement des individus. Il est lié à une transformation économique majeure qui est que la valeur des actifs augmente plus vite que la valeur du travail. Bon. Vous pouvez continuer à répéter du haut des tribunes politiques qu'il faut valoriser le travail, il faut valoriser le travail. Ce n'est pas du tout ce qui se produit et c'est précisément ça le problème. Dans les années 50, des gens qui travaillaient, qui étaient salariés, s'enrichissaient plus vite que leurs parents et paraissaient riches par rapport aux générations qui les avaient précédés au bout de 15-20 ans. Ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On voit s'inverser le rapport de force et c'est extrêmement préoccupant parce que ce qui se fige en même temps, c'est dans l'ordre familial, parce que c'est par la généalogie que se transmettent ces richesses. Bon, dans l'ordre familial se reconstituent des rapports sociaux extrêmement verrouillés et probablement support dans quelques années de regards cruels les uns sur les autres. Voilà, c'est ça qu'on peut redouter.
Donc cette situation d'inégalité par rapport à la richesse que vous décrivez est le résultat de politiques publiques, de politiques fiscales en particulier, mais il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu et on aurait tort de croire qu'on pourrait tout expliquer par ces politiques fiscales. C'est aussi, vous disiez tout à l'heure, la société qui est en cause. Si ces super riches existent, c'est aussi en partie à cause du regard que ceux qui ne sont pas super riches portent sur eux.
Absolument. Et alors je défends cette position, elle est déjà critiquée, mais je pouvais m'y attendre. D'ailleurs, ça vaut aussi pour les politiques fiscales. On a voté pour des majorités qui avaient explicitement le projet de baisser les impôts, de baisser les efforts de redistribution. Il ne faut pas s'étonner qu'au bout de 20 ans, ça ait produit les effets qu'on voit.
Et ça ne concerne pas seulement l'actuel président de la République, Nicolas Sarkozy, mais la gauche avait commencé,
absolument,
avait initié ces baisses,
absolument,
d'impôts.
Absolument. Il faut se souvenir de ce qu'a fait Laurent Fabius lorsqu'il était à Bercy. Il faut se souvenir du programme qui était celui de la gauche dans certaines échéances électorales des années 90. Bon. Mais au-delà même de ça, Il faut relire Veblen, il faut relire un certain nombre de classiques. Hein. Le regard que portent les gens qui n'ont pas de fortune, qui ont peu de moyens sur la fortune, est un regard ambigu, un regard ambivalent. Ça n'est pas leur faire injure que de dire ça, mais la presse People se vend très bien pour cette raison-là. Voilà, il faut le reconnaître. Il y a de l'ambivalence, c'est-à-dire qu'il y a de la fascination, il y a aussi du ressentiment et tout ça se mélange. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est précisément la toxicité de ce mélange. Parce qu'au fond, l'essor des riches dans les années 90 et 2000 a été en partie applaudi par la société. On a fait beaucoup d'efforts pour faciliter la vie à ces gens. Bon. On a mis en scène des personnages aussi emblématiques que Bernard Tapie. On a fait vivre la crise, souvenez-vous, dans les années 80. Bon. Tout ce mouvement a été un mouvement qui a consisté à installer dans la société française une religion de la concurrence et de la compétition qui s'est trouvée en difficulté pour cohabiter avec les impératifs de la solidarité. Et la société française aujourd'hui voit le combat permanent de ces deux ordres de valeurs, si vous voulez, deux ordres de grandeur, deux rapports au monde, c'est-à-dire l'affrontement de la religion de la réussite personnelle, de la compétition, de la concurrence d'un côté et de l'impératif de solidarité et d'égalité de l'autre. C'est précisément ça le problème. C'est-à-dire que les mêmes qui aujourd'hui fustigent à bon droit et légitimement l'essor des riches rentrent chez eux enseigner la compétition à leurs enfants.
On commençait en citant le Monopoly. On revient à l'idée de loterie, de jeu, de hasard, parce qu'au fond, peut-être ce qui rend acceptable ce que vous dites, c'est-à-dire ce qui peut donner envie dans la richesse des autres, c'est l'illusion qui consiste à croire peut-être qu'un jour, on se trouvera à la place de ces super riches. On peut être frappé de voir dans le même temps les discours anti-ponction fiscale, les discours anti-impôts et des mises considérables dans les jeux de hasard qui sont organisés par l'État, par exemple, puis aujourd'hui, pas seulement par l'État. Mais on peut aussi s'étonner du caractère économique casino de certains secteurs dont nous parlions tout à l'heure, le football ou le sport en général, l'édition et les prix littéraires à propos des artistes. Il y a quelque chose de très étrange dans cette religion de la grande loterie. Peut-être est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'influence de longue durée de cette idéologie de l'égalité des chances ?
Peut-être, oui, effectivement. Je crois que le hasard serait un objet d'étude en soi. Le hasard est plus juste que la vie. Finalement, le hasard, c'est l'espoir que tout le monde pourrait un jour voir tomber sur sa tête des millions de dollars ou des millions d'euros. Donc il y a une forme de justice supérieure du hasard dans son caractère parfaitement arbitraire et finalement sans doute très équitable. Le problème, c'est que la société ne fonctionne pas au hasard. Elle fonctionne à l'inertie, elle fonctionne à la prédestination sociale. Et moi, ce que je pense être le danger le plus lourd, finalement, pour la société française aujourd'hui, c'est que les individus qui la composent sont des plantes de serre extrêmement fragiles, sur lesquelles il faut veiller dans des endroits où il faut maintenir la température et les conditions d'humidité de manière extrêmement précise. Ce sont des plantes de serre qui se prennent pour des animaux de la jungle. Ils pensent ne rien devoir à personne. On leur a donné l'illusion, parce que la main de l'État-providence est aussi et bien plus invisible que celle du marché quelquefois, qu'ils ne devaient leur destin qu'à eux-mêmes. Bon, ceux qui sont en bas de l'échelle savent que cette histoire est en partie fausse, bien sûr. Mais ceux qui sont au milieu de la distribution et tout en haut, en revanche, ils se racontent l'histoire des animaux de la jungle. Et retrouver le sens de la dette sociale, le sentiment de la dette sociale, mettre un prix finalement, sur les prestations qui viennent de la redistribution, est sans doute une urgence.
Et vous rejoignez en cela, dans votre conclusion, Thierry Pêche, l'essai récemment publié par Pierre Rosanvallon sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement de parler d'égalité au point de départ, mais aussi au point d'arrivée des sociétés, en quelque sorte. Reste à inventer les politiques publiques qui permettraient d'arriver à cette réduction des inégalités sociales.
Je le rejoins aussi sur un point, c'est que l'égalité, c'est une qualité de relation entre les individus, ce n'est pas simplement une mesure arithmétique de leurs revenus.
Merci beaucoup Thierry Pêche. Je rappelle le titre de ce livre, Le temps des riches, anatomie d'une sécession. Il paraît aux éditions du Seuil. Vous pouvez trouver les références bibliographiques sur le site de France Culture. À la page de la suite, dans les idées, vous pouvez également podcaster l'émission. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché d'émission, Anne de Biron, à la technique aujourd'hui, Bruno Gagnère-Fontani, à la réalisation, Bruno Sourcy. Dans quelques instants, ce sera Mathieu Garrigou-Lagrange.